Une petite peau à la Corfille, pensant sans doute que j'allais m'intéresser à la nutrition dans la péninsule italienne. Et je leur ai dit non, non, pas du tout, je vais vous parler de William Shakespeare, l'Italien. Donc, je vous suis très reconnaissante à vous aussi d'être là devant moi. Vous avez bravé les éléments dans cette période de Covid, pluvieuse et venteuse. Bien, alors, nous allons nous occuper ce soir de William Shakespeare, dont je vais essayer de vous convaincre que c'est un Italien de cœur. Notre ami William Shakespeare, l'Italien, dont nous allons faire la connaissance ce soir. Voici donc l'homme dont nous allons évoquer ensemble le destin singulier, un certain William Shakespeare, qui est né à Stratford-upon-Avon, qui est une petite ville du centre de l'Angleterre, située près d'Oxford. Il est né le 26 avril 1564, il est mort dans cette même ville le 23 avril 1616. Il est ici représenté dans un portrait dit portrait Chandos qui date de 1610, qui donc date du vivant de notre héros. On ne sait pas, on n'est pas sûr qu'il ait véritablement posé lui-même pour ce portrait, mais en tout cas on est sûr que comme il s'agit du portrait du vivant du héros, il est sans doute très ressemblant. Qui est-il ce William Shakespeare? Eh bien, c'est le fils d'un notable de la ville de Stratford, gantier de profession. La mère de William est issue de la petite noblesse locale, elle professe la foi catholique. Quant à son père et les instituteurs de William dans ses jeunes années, leur religion est plus énigmatique. Il y a des indices qui nous font penser qu'il pourrait s'agir de crypto-catholiques qui n'osent pas afficher ouvertement leur foi dans ce contexte de guerre de religion terrible qui sont à peine éteintes à l'époque élisabéthaine. Il n'y a rien de bien italien jusqu'à présent, vous en conviendrez, mais notre homme va nous réserver quelques surprises de son cru. Passons d'abord à sa formation. Les années de formation dans la Grammar School de Stratford-upon-Avon. Son ami, qui est bien connu de tous les érudits qui sont devant moi, Ben Jonson, autre personnage important du monde littéraire anglais de cette époque, nous a laissé une phrase très ambiguë qui nous dit que Shakespeare ne connaissait qu'un peu de latin et encore moins de grec. Personne ne comprend ce que voulait dire Ben Jonson. Il y a des siècles d'érudition qui se sont penchés sur le sens de cette phrase. Franchement, nous ne savons pas. Bien au contraire, il semble bien que pendant son enfance, le petit William, à la Grammar School de Stratford, ait été imprégné de culture latine. Il aurait pu même vivre une immersion totale en latin. En effet, la grammar dont il est question ici n'est pas du tout la grammaire anglaise dont on pourrait imaginer qu'elle est enseignée aux enfants anglais, c'est plutôt la grammaire latine. Et dans cette école, le petit William s'initie très tôt à la poésie des grands auteurs. Citons en particulier des gens qui sont bien connus de la Corfille, Pétrarque, Juvénal, l'Arioste, Boccace, Ovide, Virgile, Sénèque, Le Tasse et bien d'autres. Ça fait rêver en 2021. Les écoliers de cette grammar school jouent des farces latines à l'école et on peut imaginer que le jeune Shakespeare a joué dès son plus jeune âge dans les farces de Plaute. Parmi toutes ces influences italiennes, nous allons en citer une en particulier qui se dégage de façon particulière, car il s'agit d'un cas de transmission héréditaire directe. Devant les membres de la Corfille, il est inutile de présenter ici le très mystérieux poète et humaniste napolitain Pier Angelo Manzoli. Manzoli, curieusement, était très lu dans les grammar schools à l'époque qui nous intéresse. Sous l'anagramme de Palingenius, autrement dit Marcellus Palingenius Stellatus, Manzoli est l'auteur des Sept âges de la vie, autrement dit Zodiacu Vitae, et de la fameuse maxime Vita est fabula, dont William va faire un très bon usage dans son théâtre. En effet, il va nous apprendre une chose très vraie, très philosophique, All the world's a stage, le monde entier est une scène de théâtre, la vie est un conte, et nous sommes tous des acteurs qui nous produisons pendant un très court laps de temps sur cette scène de théâtre. Sachez-le, il avait puisé cette belle inspiration auprès de Manzoli. En passant, ce Manzoli était un personnage tout à fait intéressant. Ce n'est qu'après sa mort que l'Inquisition romaine s'est aperçue que c'était un hérétique de haute volée. Il était évidemment trop tard pour le brûler vif, naturellement. Qu'à cela ne tienne, l'Inquisition a décidé de le déterrer, de telle sorte qu'on puisse brûler ses cendres post-mortem. Revenons maintenant à William. Que savons-nous de sa vie ? Eh bien, notre jeune italianisant se marie à Stratford en 1582. C'est un tout jeune homme, il n'a que 18 ans, et il sera très bientôt le papa d'une petite fille, une petite Susanna. De façon très mystérieuse, à partir de 1586, on perd toute trace de lui jusqu'en 1592. C'est une période que ses biographes appellent les années perdues. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là ? Mystère. Toutes les hypothèses sont permises, notamment nous pourrions faire l'hypothèse d'un voyage en Europe continentale avec une troupe de comédiens itinérants. Est-ce qu'il aurait visité l'Italie ? Est-ce qu'il aurait visité certaines des villes dont il va nous parler dans son théâtre ? Pourquoi ne serait-il pas allé aussi jusqu'à Elsener au Danemark ? Tout est possible. Il pourrait tout simplement rester en Angleterre, il aurait pu travailler comme le faisaient les jeunes gens cultivés de son époque, comme précepteur d'une famille catholique qui, encore une fois, aurait voulu dissimuler l'enseignement religieux de ses enfants. Il pouvait tout simplement, dans la boutique de son père, en train de gagner sa vie et celle de sa famille. Que se passe-t-il donc dans le monde en 1593 ? La reine Élisabeth Ière est reine d'Angleterre depuis 1558. En France, notre bon roi Henri IV règne depuis 1589. À Londres, l'aristocratie anglaise rivalise de générosité envers les arts et les artistes. Plusieurs aristocrates ont d'ailleurs leur propre compagnie théâtrale. En retour, chaque écrivain, chaque érudit, chaque artiste doit trouver un protecteur parmi l'aristocratie et il va ensuite dédier toutes ses œuvres à son protecteur. Le théâtre londonien en particulier est très brillant. Il est illustré par un grand nombre de noms célèbres, dont celui qui est le mieux parvenu jusqu'à nous est celui de Christopher Marlowe, dont on joue encore les pièces dans notre monde contemporain. Notons en passant une curiosité sur les scènes anglaises à l'époque de Shakespeare. Tous les rôles sont joués par des hommes. Il n'y a pas de femmes sur les scènes anglaises ou londoniennes. Les rôles d'héroïnes, les rôles de jeunes premières, sont tous joués par des hommes et notamment par des jeunes garçons qui bien souvent ont une expérience limitée de la scène. Que dire aussi du monde anglais à cette époque-là ? Eh bien, la peste sévit en Angleterre élisabéthaine. Elle ferme les théâtres périodiquement, parfois pour de longues périodes. C'est une chose que nous pouvons apprécier nous-mêmes de nos jours. On a vu ça dans notre propre histoire personnelle. Sachez par exemple qu'à Londres, rien que dans la ville de Londres, en 1592-1593, il y a 150 000 personnes qui meurent de la peste. C'est juste au moment où nous allons retrouver William sur les scènes londoniennes. Ajoutons à cela que la censure est omniprésente. La vie n'est pas facile entre la peste et la censure, c'est vraiment très difficile. La première pièce à laquelle William a prêté la main avec trois autres collègues est une évocation de la vie de Thomas More, et cette pièce ne sera jamais autorisée par la censure, elle ne sera même jamais terminée et certainement jamais représentée. Évidemment, à cause de cette censure extrêmement brutale, il est très tentant pour les auteurs, surtout ceux qui ont des choses un peu séditieuses à exprimer, il est très tentant d'user de pseudonymes, notamment chez les aristocrates qui pourraient être tentés de d'écrire, notamment pour le théâtre, sur la place publique, tout en étant à l'abri des censeurs. Évidemment, c'est très tentant, mais c'est aussi très dangereux si on vous y prend, gare à vous. William, dans tout ça, que devient-il? On le retrouve donc à Londres en 1593. Il est déjà dans une troupe de comédiens où il s'essaie à l'écriture. Il a déjà participé à l'écriture de cette pièce sur Thomas More. Il apparaît sur scène au sein d'une troupe prestigieuse, les Lord Chamberlain Men, donc la troupe du Lord Chamberlain. C'est une très bonne troupe. Ses débuts sont flamboyants, aussi bien comme dramaturge avec la trilogie Henri VI que comme poète avec des œuvres inspirées de l'histoire et de la mythologie latine qui connaissent immédiatement un succès fulgurant. Simplement, ses contemporains le méprisent et le tiennent pour un vulgaire arriviste. En effet, il n'a pas de diplôme universitaire, contrairement à beaucoup de ses rivaux sur la scène londonienne. En effet, il est un jeune père de famille, il n'a pas pu aller traîner à Oxford ou à Cambridge, il devait gagner la vie de sa famille. Mais il va être très tôt confronté à de nombreux rivaux qui sont réunis en confrérie à Londres sous le titre autoproclamé de « University Wits », c'est-à-dire les beaux cerveaux de l'université, des garçons qui ont fréquenté Oxford et Cambridge et qui méprisent ce pauvre garçon qui arrive de Stratford sans aucune formation sérieuse. L'un de ses rivaux, le dramaturge Robert Greene, le traite de « upstart crow », c'est-à-dire la corneille qui prend son envol. Nous verrons que ce soupçon d'incompétence, d'illettrisme même à l'extrême, va le poursuivre toute sa vie, et même bien au-delà de sa vie, comme nous allons le voir plus tard. Ici, ce que vous voyez, c'est une illustration de la BBC, qui a utilisé cette formule de « upstart crow » comme titre d'une série humoristique qui est consacrée au début de William Shakespeare et à ses aventures absolument hilarantes entre Londres et Stratford, alors qu'il essaie de se faire un nom comme dramaturge. Si vous connaissez l'anglais, je ne peux pas trop vous recommander cette série absolument désopilante. Malgré la jalousie qui l'entoure, il joue à la cour royale, il construit avec sa troupe de leurs propres mains le théâtre du Globe au sud de la Tamise, que vous voyez ici, il va y jouer ses propres pièces, il en écrit près de 40 sur une vingtaine d'années de vie théâtrale. Il écrit, il joue, il est chef de troupe, il est impresario, il est administrateur de son théâtre, et j'en passe. À 40 ans, il est probablement épuisé, en tout cas, il est riche et célèbre, il est propriétaire d'un très beau domaine à Stratford, où il se retire à partir de 1611. Il a 47 ans, nous pourrions dire que c'est un très jeune retraité. Simplement, il ne faut pas oublier que dans l'Angleterre de l'époque, l'espérance de vie est de 37 ans. Donc, jeune retraité de 47 ans qui se retire sur ses terres. Revenons à son œuvre maintenant. D'abord, ses poèmes de jeunesse qui sont inspirés par l'Italie. Vous allez voir qu'il va vous devenir de plus en plus italien à mesure que nous allons avancer. Ces poèmes de jeunesse qui ont eu tellement de succès, qui ont attiré l'attention sur lui dès ses premiers pas dans le Londres culturel, sont d'abord Le viol de Lucrèce en 1594. Il s'agit ici d'un long poème qui est dédié à son protecteur, Lord Southampton. Le poète a à ce moment-là 30 ans et il raconte dans ce poème l'histoire que vous connaissez tous naturellement. Tarquin, qui est le fils du roi de Rome, n'arrive pas à séduire la belle Lucrèce, il la viole et Lucrèce est déshonorée, elle se suicide. Quant à Vénus et Adonis, qui est paru en 1593, il s'agit d'un poème inspiré du monde latin, un poème d'un érotisme raffiné qui va être un énorme succès dès sa parution, avec de multiples rééditions sur plusieurs décennies du vivant même de Shakespeare. Donc vous le voyez ici, le paysage mental et affectif du jeune poète est tout entier baigné dans la culture latine, baigné dans les grâces italiennes. Contrairement à ses poèmes, l'œuvre dramatique de Shakespeare n'est pas publiée de son vivant. Voici William tel qu'il apparaît au moment de la première publication de plusieurs de ses œuvres dramatiques en 1623, donc 5 ans après sa mort. Ce sont ses comédiens, ce sont ses collaborateurs au Théâtre du Globe qui ont fait paraître, 5 ans après sa mort, quelques-unes de ses pièces. Cette œuvre dramatique, quelle est-elle? Eh bien, les experts de son œuvre reconnaissent 38 pièces de théâtre de la main, essentiellement de la main de Shakespeare, et les regroupent en trois catégories. Il y a les pièces historiques, les comédies et les tragédies. Quelqu'un de naïf, certainement pas parmi les gens qui sont devant moi, pourrait croire que cet auteur anglais par excellence va situer l'essentiel de ses œuvres en Angleterre ou dans le Royaume-Uni de l'époque. C'est certainement vrai pour les pièces historiques et quelques autres pièces qui apparaissent en rouge sur cette diapositive. Cependant, étant donné ce que nous savons déjà de la formation de William et de son amour du monde latin, qu'il a déjà abondamment exprimé dans ses premiers poèmes, on peut se demander légitimement quelle part il va faire à l'Italie dans son œuvre dramatique. Évidemment, on pense au Marchand de Venise, tout de suite on pense à Roméo et Juliette à Vérone, peut-être à Jules César, mais en réalité, et c'est une surprise pour beaucoup de gens, il y a davantage de pièces qui ont pour cadre l'Italie que de pièces qui ont pour cadre ce qui est l'actuel Royaume-Uni. Voici les pièces qui se passent en Italie, donc essentiellement des comédies et des tragédies. Pourquoi l'Italie? Eh bien, pour toutes sortes de raisons. D'abord, il y a la formation de William, qui dès son plus jeune âge l'a initié à la culture latine et italienne. C'est le pays d'origine de nombreuses sources d'inspiration littéraire du jeune William. En retour, comme nous le verrons, l'Italie et ses villes vont devenir de véritables personnages dans ses œuvres. Évidemment, l'Italie du temps de Shakespeare n'était pas celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est une mosaïque de villes, c'est une mosaïque de gouvernements différents, de mentalités différentes, d'histoires différentes, où on peut situer des tas d'aventures, des tas de choses très intéressantes dans des cadres colorés et suffisamment exotiques. Évidemment, c'est aussi un endroit où peuvent se passer des choses innommable, qui serait tout à fait inconcevable, inconvenante, dans l'Angleterre de la reine Élisabeth. La censure y trouverait certainement à redire. Des choses qui seraient parfaitement shocking en Angleterre. Mais en Italie, ça peut tout à fait bien arriver. Ajoutant tout ceci que l'Italie produit du très bon théâtre, dont la Commedia dell'arte, et on a beaucoup de démonstrations dans différentes pièces que William connaissait très bien, la Commedia dell'arte, et qu'il s'y intéressait beaucoup. En plus de tout ça, notre garçon pourrait avoir ses raisons à lui, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Alors, quelle est donc cette Italie qui apparaît dans ces pièces? Rome, Venise, Vérone? Eh bien, voici l'Italie de Shakespeare. Du nord au sud, nous sommes dans les terres shakespeariennes. L'imagination de Shakespeare a visité l'Italie, toute la péninsule, du nord jusqu'à la Sicile. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire très rapidement, évidemment beaucoup trop vite, un petit voyage dans l'Italie tout entière, avec comme fil conducteur l'imagination foisonnante de notre dramaturge. Commençons par le nord, Vérone, dont un très jeune auteur de 29 ans va faire le point de départ des aventures de deux jeunes nobles, Valentin et Protée, i due gentiluomini di Verona, les deux gentilshommes de Vérone. Il s'agit d'une pièce inspirée de la Diana Enamorada, c'est un texte espagnol qui est lui-même emprunté à l'Aretin. Dans cette délicieuse comédie féministe et brouillonne, on voit le jeune Valentin partir pour Milan en bateau pour y faire ses études. Ça ne se passe pas à Vérone, mais bien à Milan. Il va être bientôt rejoint par son pote de toujours, Protée. Nos deux gaillards arrivent à Milan, ils ont tout fait de faire des tas de bêtises, et en particulier de tomber amoureux de la même femme. Ça n'est pas n'importe qui, nul autre que la fille du duc de Milan, en oubliant par la même occasion leurs amours laissés à Vérone. Alors, le duc de Milan n'est pas du tout d'accord, il s'en mêle, il bannit ces intrus, ces gens qui arrivent d'ailleurs et qui sèment le trouble chez nous. Après de multiples aventures en forêt au milieu des brigands, chacun retrouve finalement sa chacune et tout est bien qui finit bien. Alors, Shakespeare nous montre ici un Milan qu'il semble très bien connaître. Les personnages de la pièce se donnent rendez-vous près d'une fontaine Saint-Grégoire. Or, il s'avère que cette fontaine existait véritablement à Milan à l'époque de Shakespeare. Et le fameux voyage en bateau entre Vérone et Milan, pour lequel les bons esprits universitaires de l'époque ont ridiculisé la naïveté de William, il nous montre qu'il connaissait très bien ce mode de transport de navigation fluviale qui était tout à fait pratiqué de façon courante à cette époque-là. Saluant en passant dans cette comédie de jeunesse, un rôle très intéressant d'une jeune héroïne qui va se déguiser en homme pour intervenir dans l'intrigue, pour dénouer l'intrigue et arriver à ses fins. Cette jeune femme déguisée en homme va être la première d'une longue et glorieuse série. Nous en verrons quelques autres un petit peu plus tard. Mais en attendant, revenons à Vérone, où une actualité brûlante nous ramène. En effet, Vérone, mesdames et messieurs, est le cadre de violences urbaines extrêmement graves. Il y a des bandes de jeunes qui s'affrontent dans un déchaînement de violence, de jour comme de nuit, en pleine ville. On assiste à des bagarres, on assiste à des expéditions punitives qui font des morts, au grand désespoir des parents et au grand désespoir du duc de Vérone, qui vraiment ne sait plus où donner de la tête, ne sait plus ce qu'il faut faire pour rétablir la paix publique. Il a une certaine autorité sur les parents, sur les vieux, mais sur les gamins, pas du tout. Ce ne sont pas des quartiers qui s'affrontent, ce sont des clans familiaux, dont les Capulet et les Montaigu. Sur ces entrefaites, un bal masqué va être donné dans le palais de la famille Capulet. C'est un bal masqué, ai-je besoin de préciser, qui sera très commedia dell'art. Alors le jeune Roméo Montaigu, qui n'a rien à faire là, arrive au bal masqué. Il est masqué, bien entendu, avec quelques-uns de ses copains. Il a beau être masqué, on le reconnaît, et ça va mal tourner. Ça, vraiment, ça va assez proche de mal tourner, mais le père Capulet calme les ardeurs de ses jeunes neveux pour que, au moins chez lui, le calme puisse régner. C'est comme ça que notre jeune Roméo, 15 ans, va tomber amoureux de la fille de la maison, la petite Giulietta, qui a 14 ans elle-même. Ce sont des petits, ce sont des gamins, c'est pas une passion d'adulte, hein, ce sont des petits, ils ne savent rien de la vie, et ils sont prêts à tout pour vivre, pour vivre leur amour, ils sont prêts même à mourir. Cette pièce est inspirée d'un poème d'un certain Luigi da Porto, « Historia di due nobili amanti ». Tout est là. Dans un esprit très shakespearien, le texte va alterner des poèmes d'une très grande qualité poétique avec un langage cru qui est celui des gens du peuple et en particulier la nourrice de Juliette. La paix civile va finir par être acquise, malheureusement au prix de la mort des deux jeunes héros et de bien d'autres jeunes de la ville, et l'histoire de Roméo et Giulietta est maintenant, comme vous le savez tous, dans l'ADN de Vérone. Vérone ne peut plus se passer d'eux, comme en témoigne un ajout au mobilier urbain qui date des années 30 et la tombe de Juliette qui accueille les visiteurs encore aujourd'hui. Continuons notre voyage, partons maintenant pour Padoue, où nous serons témoins d'un autre drame contemporain, les violences conjugales, dans la Bisbetica Domata, autrement dit la mégère apprivoisée, les amours tumultueuses de la fameuse mégère Catherine et de son mari Petruccio vont nous être racontées sous un mode hyper loufoque. Le jeune Shakespeare reprend ici l'argument d'une pièce populaire et paillarde très jouée à l'époque, une pièce de Christopher Marlowe. Cependant, il prend bien soin de nous avertir que tout ce qu'on va voir là est pour de faux. C'est une supercherie. Dans un prologue qui malheureusement est très peu joué de nos jours, il nous montre un ivrogne endormi qui va être le jouet d'une troupe de comédiens itinérants qui vont lui jouer la pièce de Marlowe comme si c'était vrai. Alors nous sommes donc à Padoue, riche ville universitaire, Shakespeare est très clair là-dessus, un pôle de culture et de science, elle est peuplée de nobles cultivés. Il y a un jeune étudiant, Lucentio, qui l'appelle la nourrice des arts. Ce jeune Lucentio est amoureux d'une jeune fille de la ville, sa maîtresse et la charmante Bianca, qui aimerait bien épouser son petit étudiant. Malheureusement, ça n'est pas possible, pour la simple raison que Bianca a une sœur aînée, et que cette sœur aînée se trouve à être la farouche Catherine, dont personne ne voudrait se risquer à lui demander sa main. Farouche et indomptable Catherine. Dans le texte de Shakespeare, on reconnaît abondamment l'influence de l'Arioste dans les mésaventures de Bianca avec ses amoureux. Sur ces entrefaites arrive un prétendant, un certain Petruccio, dont Shakespeare nous dit qu'il est un expert du dressage des oiseaux de proie. Ça pourra peut-être servir. Il plaît bien à Catherine, elle n'ose pas le dire, mais enfin, il plaît bien. Il demande sa main, il l'obtient. Alors, je vous passe les détails, mais à force de jeûne et d'insomnie, Petruccio va finir par amadouer sa mégère. Tout ça est pour de faux, comme Shakespeare nous en a prévenu. Nous sommes toujours dans la farce de Marlowe, qui est jouée par des comédiens itinérants pour le pauvre ivrogne qui se réveille, et tout ça pour le bénéfice du public. Nous avons ici un très bel exemple du théâtre, dans le théâtre, bien avant Brecht et bien avant Pirandello. De nos jours, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, la mégère de Shakespeare est souvent mise en scène dans une perspective féministe où le caractère indomptable de Catherine est mis en valeur. Continuons notre voyage, allons plus au sud et nous abordons maintenant Venise, très grande inspiratrice de Shakespeare. Il va y situer deux œuvres majeures, une comédie et une tragédie. Pourquoi Venise? Évidemment, c'est une ville qui a beaucoup d'atouts pour séduire le dramaturge. C'est une ville riche et cosmopolite qui est ouverte sur le monde, sur la mer en particulier, tout comme Londres à la même époque. À Venise, on peut acheter de tout, on peut acheter des épices lointaines, on peut acheter des soies, mais aussi on peut acheter du sexe auprès des courtisanes ou même auprès d'épouses licencieuses. À Venise, pensez donc, il y a des actrices sur les scènes de théâtre. À Venise, les femmes se décolorent les cheveux. Donc tout peut arriver à Venise. Shocking, n'est-il pas? À Venise, en plus, plusieurs nations, plusieurs races, plusieurs origines se côtoient. Il existe à Venise un quartier qui est réservé aux Juifs, qu'on appelle le ghetto. Voilà un univers très riche pour un dramaturge. Commençons par la comédie. La comédie, Le Marchand de Venise et Il Mercante di Venezia, est très largement inspirée d'une œuvre florentine du XIVe siècle, Il Pecorone, que vous voyez ici, de Ser Giovanni Fiorentino. Le marchand dont il est question est Antonio. Antonio est un très riche armateur dont les bateaux naviguent de Tripoli jusqu'à Mexico. Mexico, pensez donc, de Lisbonne jusqu'aux Indes. Vraiment, c'est extraordinaire. Évidemment, ce sont des terres lointaines, ce sont des mers lointaines, et aussi dangereuses que lointaines. Antonio a un jeune ami, Bassanio, qui pense à se marier, et il a besoin d'argent pour séduire une belle et riche héritière, la fameuse Portia. Alors, il demande un peu d'argent à Antonio, qui lui dit « Écoute, je serais très enchanté de t'aider, mais mes bateaux sont en mer, je ne peux rien faire pour l'instant. » Il va donc emprunter les 3000 ducats qu'il lui faut auprès de l'usurier Shylock. Shylock est d'accord pour prêter, pas de problème. Qui plus est, il veut bien prêter sans intérêt. Mais si au bout de 3 mois, Antonio ne peut pas rembourser, il pourra prélever une livre de chair sur la personne d'Antonio. C'est extrêmement cruel, naturellement, c'est extrêmement barbare et surprenant. Shakespeare prend quand même le soin dans sa pièce de nous montrer abondamment ce qui motive Shylock pour agir de cette sorte. On voit très bien les vexations, les humiliations dont les Juifs sont victimes. Shylock lui-même, sa fille. Donc nous sommes dans un monde extrêmement ambigu, où chaque personnage peut défendre ses motivations. Alors évidemment, puisqu'il y a une pièce, c'est que les navires ont fait naufrage, sinon ils n'auraient pas dérangé le public. Shylock finit par réclamer son dû au bout des 3 mois. Le doge et tout Venise supplient Shylock de ne pas procéder à l'amputation, rien n'y fait. Nous allons donc assister sur la scène à l'amputation du marchand Antonio, quand tout à coup arrive un jeune juriste, un très jeune juriste romain. Il arrive à l'improviste. À son tour, il supplie Shylock de faire preuve de compassion. Shylock continue de se montrer intraitable et le jeune juriste étudie l'affaire. Il lui donne totalement raison à force d'arguments juridiques très subtils. Shylock nous dit « voilà un nouveau Daniel qui parle ». Voilà, il est très impressionné. Cependant, et tout est là, si la livre de chair est vraiment due, et là personne ne peut empêcher Shylock de la prélever, pas une goutte de sang vénitien ne doit couler sous peine de mort. Alors, le jeune docteur, vous l'aurez deviné, est en réalité la belle héritière Portia, qui a oublié d'être idiote, qui a oublié de rester en fond de scène pour faire de la figuration. Elle dénoue l'intrigue à la satisfaction de tous, sauf bien entendu de Shylock, qui a du moins sauvé la vie dans cette aventure, s'il a perdu tous ses biens. On a évité la tragédie de justesse, cependant on est à Venise et la tragédie rôde toujours à Venise. La Sérénissime est le théâtre de l'enlèvement d'une jeune fille de bonne famille, une certaine Desdémone. Alors, le père de Desdémone se précipite auprès du doge pour demander justice, demander réparation. Il s'avère que l'auteur du forfait n'est pas n'importe qui. L'auteur du forfait est le mort Othello. Le mort Othello est un général fameux auquel Venise est extrêmement redevable. Il a sauvé Venise plusieurs fois de plusieurs envahisseurs. Il a fait beaucoup pour Venise. Bon, mais malheureusement, il a enlevé une jeune fille de bonne famille. Ce drame est inspiré d'un récit italien de Giraldi Cinzio. Le juge est bien embêté, mais au moment où il va rendre son jugement et probablement condamner Othello, on apprend que Chypre, qui à l'époque est une colonie vénitienne, est menacée d'invasion par les Turcs. Et évidemment, il n'est pas question de condamner un général émérite dans ces conditions, bien au contraire, on demande au père de Desdémone de se calmer, et on demande par la même occasion à Othello de partir d'urgence pour Chypre afin de défendre l'île de l'invasion turque. Évidemment, Othello y part dardard, il emmène avec lui sa jeune épouse et tout le monde se retrouve à Chypre. Chypre va être sauvé sans difficulté, ça ne pose pas de problème. Malheureusement, il n'en sera pas de même pour Desdémone. Une fois à Chypre, Othello est rendu fou de jalousie par les intrigues diaboliques de son lieutenant, Iago. Et nous voyons ici que le féminicide moderne n'a rien inventé. Nous suivons dans le détail l'engrenage de la furie du mari. Il y a d'abord des insultes, des reproches, des violences verbales, et puis des coups au vu et au su de tout le monde, et finalement l'assassinat de l'épouse par son mari que rien n'a pu arrêter. Le texte est d'une exactitude clinique très impressionnante pour un public moderne. Après tant de violences, partons pour Florence, où, heureusement pour nous, tout est bien qui finit bien. Tutto è bene, quel che finisce bene. L'action est inspirée de Boccace. Elle se déroule d'abord à la cour du roi de France pour se dénouer finalement à Florence. De quoi s'agit-il ? La jeune et douce Hélène est orpheline du médecin, du très brillant médecin Gérard de Narbonne. Pour ceux qui l'ignoreraient, Gérard de Narbonne est le plus brillant médecin de son époque. Il laisse donc orpheline sa jeune Hélène, qui est recueillie par la comtesse de Roussillon, très beau personnage féminin, un des plus beaux de Shakespeare. Donc la comtesse de Roussillon élève cette petite Hélène comme sa fille. Or, Hélène est secrètement amoureuse du fils de la maison, le jeune comte Bertrand, qui lui-même n'a rien à faire de la petite Hélène. Il ne songe qu'à la gloire militaire, les champs de bataille, les combats, la gloire, l'amour, pas du tout. Et voilà que sur ces entrefaites, le roi de France tombe malade. Les médecins du roi sont désespérés, on n'arrive pas du tout à le guérir, ça va très très mal, il agonise. C'est alors que la petite Hélène, n'écoutant que son bon cœur, se jette au secours du roi, elle se précipite, et grâce à la science qu'elle a héritée de son père, elle le sauve, elle sauve le roi. Le roi est fou de gratitude, bien entendu, il lui accorde tout ce qu'elle veut, notamment de se choisir un mari parmi les jeunes nobles de la cour. Eh bien, elle choisit Bertrand, bien entendu, qui n'a pas le choix et qui doit, de mauvaise grâce, se soumettre à la volonté royale. Il épouse donc Hélène, mais sans attendre davantage, sans consommer son mariage, il part dardard au secours du duc de Florence, qui à ce moment-là est menacé par des ennemis qui voudraient s'emparer du pouvoir. Alors Bertrand arrive, il est d'une bravoure, d'une bravitude incroyable, il met en déroute les ennemis du duc de Florence, il s'attire la gloire, la reconnaissance du duc et l'attention bien évidemment des Florentines. C'est ici qu'Hélène, qui encore une fois oublie de faire de la figuration et d'être idiote, elle le rejoint en secret, sous prétexte d'un pèlerinage à Saint-Jacques. Encore une fois, les beaux esprits de l'époque ont dit « Oh, ce Shakespeare, il ne connaît rien du tout, on voit qu'il n'a pas étudié. Il ne sait pas que le pèlerinage de Saint-Jacques, c'est en Espagne, c'est pas du tout en Italie. » Or, Shakespeare a raison, il y avait effectivement un monastère Saint-Jacques à Florence, à cette époque-là, qui aurait pu servir de refuge à Hélène à la poursuite de son mari. Alors Hélène, une fois arrivée à Florence, va user d'un stratagème qui sera repris plus tard par nul autre que Beaumarchais et par Mozart. À la faveur de la nuit, elle va prendre la place d'une jeune Italienne que son mari essayait de séduire et qui ne voulait pas du tout se laisser faire. Hélène, à la faveur de la nuit, à la faveur de l'obscurité, prend la place de la jeune fille et la nuit se passe à la satisfaction des deux époux. Shakespeare est très clair là-dessus, ça s'est bien passé pour les deux. Le mari Bertrand n'y a vu que du feu, il ne s'est pas du tout aperçu qu'il avait passé la nuit avec sa femme. Je ne vous donne pas la suite des événements, mais il y a encore moult péripéties, course-poursuite en Italie, en France, partout. À la fin de tout ceci, le petit Bertrand tombe enfin amoureux de sa femme et tout est bien. Qui finit bien. Tutto è bene. Continuons notre voyage vers le sud. Nous voici maintenant à Rome, une autre ville qui a beaucoup inspiré William Shakespeare. À tout seigneur, tout honneur, commençons par Jules César, Giulio Cesare, qui est inspiré de la vie des hommes illustres de Plutarque. Le drame shakespearien est un drame cosmique qui, plein de présages funestes, il a fait un grand usage de l'exhortation « César prend garde aux îles de Mars ». Les héros, les protagonistes de cette tragédie sont bien entendu César lui-même, grand général, vainqueur de Pompée, admiré, craint, mais aussi en bon héros shakespearien, ça n'est pas un homme terriblement aimable. Il est capricieux, il est vaniteux, il est inflexible, il est injuste, et pour couronner le tout, il est épileptique. Il y a aussi Brutus, c'est le fils adoptif de César, un noble patricien, un homme intègre, soucieux du bien public, qui s'inquiète aussi bien des ambitions de César que du pouvoir des nobles. Ensuite, Marc-Antoine, que Shakespeare nous montre en jeune athlète, au moment où la pièce commence, il va courir une course à pied qu'il va gagner et pour offrir sa victoire à César. Donc c'est un grand ami, un grand soutien de César. C'est un athlète, c'est un jeune homme, c'est un mondain, c'est un gars un peu superficiel. Mais enfin, César peut compter sur lui. Il y a aussi très beau personnage, le sombre Cassius, que Shakespeare nous décrit comme l'homme qui lit trop. Il est trop maigre. C'est l'homme du complot qui va recruter les conspirateurs parmi la noblesse. Il n'y a que du beau monde dans cette conspiration, que des hommes honorables, uomini d'onore. En effet, ces honorables romains soupçonnent César de vouloir profiter de sa popularité à Rome pour prendre le pouvoir à son seul profit. N'oublions pas un autre personnage très important, la plèbe, le peuple, versatile, irrationnel, veulent, du moins dans l'esprit des nobles, et la pièce commence d'ailleurs par une manif d'ouvriers en colère sur la place publique. César, qui n'a pas pris garde aux îles de Mars malgré les exhortations de son épouse, est assassiné au beau milieu de la pièce. Et tu quoque Brute Filii. Donc stupeur dans Rome. C'est ici que Marc-Antoine, l'athlète, le mondain, l'homme superficiel que l'on n'attendait pas ici, va se voir octroyer un des plus célèbres monologues de toute l'histoire du théâtre. Avec un peu de chance, nous allons pouvoir écouter un petit bout de ce monologue, non pas en anglais, mais en italien, dans le décor romain d'origine, par la voix du merveilleux acteur romain Gigi Proietti, si la technique veut bien nous y autoriser.
Sono venuto a parlare al funerale di Cesare. Egli fu mio amico. Giusto, leale con me. Ma Bruto dice che Cesare era ambizioso e Bruto è uomo d'onore. Lui portò a Roma molti prigionieri, il cui riscatto riempì le casse dell'erario. Quando i poveri piansero, Cesare pianse con loro. L'ambizione dovrebbe essere fatta di sforza ben più dura. Tuttavia, Bruto dice che Cesare era ambizioso e Bruto è uomo d'onore. Voi tutti ricorderete che ai Lupercali io offrii 3 volte una corona di re a Cesare e Cesare per ben 3 volte la rifiutò. Fu ambizione questa? Ma Bruto dice che Cesare era ambizioso e Bruto è uomo d'onore, ma io non sono qui per smentire quello che Bruto ha detto. Io sono qui per dirvi quello che so. Voi tutti un tempo l'amavate e ne avevate buoni motivi. Ora quali sono i motivi che vi trattengono dal piangerlo? Oh, senno! Ti sei confuso fra bestie brute e gli uomini hanno perso la ragione. Ora, vi prego, cittadini, di perdonarmi, ma il mio cuore è lì, dentro quella bara, con Cesare. E non potrò continuare fin quando non sarà tornato a me.
On comprend qu'après tout ceci, Marc-Antoine retourne la foule au bénéfice de César. La guerre civile éclate et elle se termine par une épidémie de suicide chez les conjurés vaincus. Pour ceux qui n'auraient pas compris, ce que nous disait Marc-Antoine, c'est que César aimait les Romains. César a par 3 fois refusé la couronne. Mais Brutus dit que César était ambitieux. Or, Brutus est un homme honorable. Uomo d'onore. Les assassins sont tous des hommes honorables. Uomini d'onore. Donc, au terme de cette guerre civile atroce, nous assistons à une épidémie de suicide parmi les conjurés vaincus. Nous sommes ici vraiment dans la Rome de Corneille. Nous sommes chez Corneille. Le monde est désormais sous la coupe d'un triumvirat composé de Marc-Antoine lui-même, il l'a bien mérité, mais aussi d'Octave, qui est le petit-neveu de César, et de Lépide. Shakespeare va maintenant s'intéresser aux survivants. Suivons d'abord Antoine jusqu'à Alexandrie, où il va retrouver Cléopâtre, Antonio et Cléopâtre. Autant dans Jules César, nous étions chez Corneille, nous sommes maintenant dans Antoine et Cléopâtre, nous sommes chez Racine. En effet, la passion domine les êtres et leur fait perdre la raison. La pièce est inspirée de la vie de Marc-Antoine de Plutarque. Au début de la pièce, donc, Antoine, qui est l'un des trois maîtres du monde, a quitté Rome. Il vit avec Cléopâtre à Alexandrie, au grand scandale de ses soldats. Il s'abandonne à une vie de plaisir et de débauche. L'histoire le rattrape, cependant, bientôt il doit rentrer à Rome. En effet, sa femme légitime, Fulvia, a intrigué contre Octave, le jeune César. C'est pas des choses que le jeune César accepte facilement. De plus, à Rome, Pompée menace. Il faut défendre Rome contre Pompée, qui installe un blocus naval autour de la ville et qui menace d'affamer la population. À Rome, le jeune Octave, que Shakespeare appelle César dès le début de la pièce, le futur Auguste, est aux commandes. C'est un gamin, c'est un petit, les autres personnages l'appellent le môme, le gamin, César le petit. À la grande surprise donc des vieux briscards, c'est un virtuose de l'intrigue et du commandement. Il a tôt fait de dominer Pompée, il exile Lépide, et là, coïncidence extraordinaire, Fulvia, l'épouse d'Antoine, celle-là même qui venait de comploter contre Octave César, elle meurt subitement. Antoine se retrouve donc veuf, et César en profite pour lui demander d'épouser sa jeune sœur, Octavie, ce que Antoine accepte. On pourrait imaginer, une fois ces compromis réalisés, que la politique romaine va retrouver son calme. C'est bien mal connaître Antoine qui, au lieu de s'amender, abandonne Octavie et rentre à Alexandrie pour retrouver Cléopâtre. Alors, de retour à Alexandrie, les caprices de Cléopâtre le rendent fou, son génie militaire l'abandonne, trop c'est trop, vraiment, et après de multiples revers, trahisons, malentendus, Antoine va être vaincu à son tour par Octave. Dans la défaite, une seule conduite est possible, Antoine d'abord, et puis Cléopâtre se suicide l'un après l'autre, et le jeune César demeure seul maître du monde, il ne lui reste plus qu'à devenir Auguste. Nous avons donc vu Jules César s'ouvrir sur une manifestation d'ouvriers en colère. Comme vous le savez tous, la République de Rome, depuis ses origines, était le lieu de manifestations récurrentes de la colère du peuple. C'est le nœud d'une autre pièce romaine de Shakespeare, Coriolan, Coriolanus, que nous pourrions sous-titrer « Gilet jaune contre Jupiter ». C'est ici une pièce tardive de Shakespeare, de 1608, qui est très librement inspirée d'une part des vies illustres de Plutarque, mais aussi, de façon très intéressante, par les émeutes des céréales qui se sont passées dans le Midland en 1607. Nous sommes donc ici en 493 avant Jésus-Christ. Le général Caius Marcius, qui est un soldat d'un courage extraordinaire, d'une vaillance au combat extraordinaire, défait par ses propres forces les Volsques, qui sont des voisins et pourtant des ennemis des Romains. Et il vainc notamment leur féroce chef, Aufidius. À lui tout seul, il va prendre la ville de Coriole, ce qui lui vaudra son surnom de Coriolan, un peu comme Scipion était devenu l'Africain en son temps. Or, le général Coriolan a des ambitions politiques. Il veut être élu consul de Rome, c'est-à-dire premier personnage de la République. Mais il faut être élu. Et pour être élu, pour devenir consul, il doit obtenir les voix des tribuns du peuple. Or, comme tous les nobles romains, Coriolan méprise la plèbe et il répugne à exhiber devant les tribuns du peuple les cicatrices qu'il a acquises au combat, qui pourtant étaient un argument tout à fait décisif pour être élu consul. Le mépris du héros est si évident pour le peuple que l'affaire tourne vraiment très mal, l'affaire tourne au vinaigre, et Coriolan, au lieu d'être élu consul, est condamné à mort. Alors, il n'est pas contre, il a vu la mort en face très souvent, ça ne l'impressionne pas du tout, simplement il ne veut pas être exécuté, il veut mourir en combattant. Et il met au défi ses juges de l'affronter dans un combat à mort. Bon, la sagesse revient tout à coup au juge, tout le monde se défile prudemment et on décide de commuer sa sentence en bannissement. Bon, on pourrait croire que c'est sage, mais ça tombe très mal parce qu'au même moment, les Volsques s'apprêtent à attaquer de nouveau la ville de Rome. Donc ses voisins particulièrement turbulents et teigneux qui s'en prennent régulièrement à la République. Coriolan, qui a été chassé de Rome, se joint aux Volsques. Après de multiples revirements, trahisons, que sais-je, que je ne vous raconte pas, au moment même où il s'apprête à marcher sur Rome et probablement à raser la ville, il est assassiné par son vieil ennemi, Aufidius, qui va en profiter pour attaquer Rome tout seul et pour son propre bénéfice. Restons encore à Rome quelque temps pour évoquer une autre tragédie, mais celle-ci se situe à une époque beaucoup plus tardive. Il s'agit de la première pièce de Shakespeare qui a été véritablement jouée sur scène. L'auteur avait à ce moment-là 28 ans. Nous sommes toujours à Rome, mais c'est une Rome beaucoup plus tardive. Nous sommes à la fin de l'Empire romain, alors que le vieux général Titus Andronicus, Tito Andronico pour les Italiens, rentre victorieux de 10 ans de guerre, 10 ans de guerre menée contre les Goths. Il a perdu plusieurs de ses fils dans ces guerres, mais comme il en avait 25, quelques-uns ont survécu, quelques-uns ont pu réchapper, et nous verrons que ça pourrait être utile plus tard. Alors Titus rentre à Rome, il ramène en captivité la reine des Goths, Tamora, et ses deux fils. Dès qu'ils sont arrivés à Rome, le fils aîné de Tamora est immolé immédiatement en sacrifice aux dieux romains. Titus, qui est couvert de gloire, refuse néanmoins de devenir empereur. On désigne donc un autre empereur, un nouvel empereur, il s'agit d'un certain Saturninus, dont les mérites sont médiocres, pour le dire poliment. Shakespeare nous le montre comme une espèce d'excité, une espèce d'olibrius paranoïaque et totalement incapable de gouverner. Dès qu'il est couronné empereur, il s'empresse de prendre une nouvelle épouse, et cette nouvelle épouse n'est nulle autre que la reine des Goths, Tamora, dont on sait qu'elle a bien des raisons d'en vouloir à Titus. Au terme d'une débauche de vengeance, de contre-vengeance, de mutilation, de viol, de décapitation, de cannibalisme sous les yeux du public, Shakespeare était très jeune, hein, il ménageait pas ses effets, il mettait la gomme. Tout le monde est mort, sauf Lucius, l'un des fils de Titus, qui va devenir empereur à son tour, après avoir fait le siège de Rome avec son armée de Goths. Donc, les sources de cette histoire complètement folle sont nombreuses, parmi lesquelles nous pouvons citer des sources latines, les Métamorphoses d'Ovide, pour le festin cannibale que nous voyons au milieu de la pièce, et aussi les tragédies de la vengeance de Sénèque. On pourrait croire que tant de violence rend la pièce difficile à représenter dans notre monde civilisé. Bien au contraire, les metteurs en scène du XXe siècle et du XXIe siècle, notamment Peter Brook, sont particulièrement friands de Titus Andronicus, sans doute en écho aux débauches de violence dont nous sommes témoins tous les jours aux actualités télévisées, sinon sur les réseaux sociaux. Finalement, Rome va être le théâtre d'une intrigue secondaire de la tragédie Cymbeline. Cymbeline est le roi de Bretagne. Sa fille, la vertueuse Imogène, se marie secrètement avec un roturier qui est un homme de grande valeur, mais il est roturier, qui s'appelle Postumus. Le roi est furieux, il exile Postumus, qui doit s'enfuir à Rome au prix de sa vie. C'est là, une fois à Rome, qu'il va vanter la vertu et la beauté de sa femme à l'ignoble Iachimo, qui fait le projet aussitôt de séduire Imogène. Donc Iachimo, que vous voyez ici, se rend en Bretagne. Il tente de séduire Imogène, mais effectivement, c'est vraiment vrai, elle est incorruptible. Donc, à court d'arguments, il décide d'utiliser la ruse. Il s'introduit dans la chambre d'Imogène pendant la nuit, pendant qu'elle dort, pour lui voler un bracelet que son mari, Postumus, lui avait donné en gage de fidélité conjugale. il rentre à Rome, il se vante auprès du mari de sa bonne fortune, il exhibe le fameux bracelet, grand désespoir du mari, il maudit sa femme, il espère la voir morte et il a le projet de la féminicider dès que les choses seront possibles. Donc sur ces entrefaites, la guerre se déclare entre Rome et la Bretagne. Tout le monde part à la guerre. Dans la mêlée générale sur le champ de bataille, Imogène retrouve son mari. Iachimo est confondu, il doit avouer sa traîtrise. Le roi Cymbeline retrouve des fils qu'on lui avait ravis autrefois lorsqu'ils étaient bébés. Et la paix est retrouvée avec Rome. Après toutes ces aventures, quittons finalement Rome et acheminons-nous plus au sud où la tempête nous attend. Cette tempête a été inspirée à Shakespeare par le naufrage d'un navire anglais qui s'appelait le Sea Venture et qui a fait naufrage en 1610 au large des Bermudes à l'île des Diables. Non pas l'île du Diable, mais l'île des Diables. Quelques marins ont survécu et ils ont pu raconter leur épreuve pour inspirer la pièce de Shakespeare. Voici la tempête, la tempesta, telle qu'elle a été mise en scène par Giorgio Strehler, un spectacle qui a été montré à l'Odéon en 1983. J'espère que vous l'avez tous vu et que vous avez été émerveillés comme moi par la beauté sublime de cette pièce. Donc Prospero, le duc de Milan, qui est un vieux magicien, il a été traîtreusement chassé du pouvoir ducal par son frère Antonio. Il a été non seulement chassé du pouvoir, mais il a été abandonné en mer avec sa fille de 3 ans, la jeune Miranda. Miranda, c'est-à-dire celle qu'on ne peut qu'admirer. Il emporte avec lui sur son radeau de sauvetage ses vieux grimoires de magie. Et ils finissent par échouer quelque part sur une île inconnue. Quelle est cette île ? Shakespeare n'est pas clair là-dessus. Nous ne le savons pas exactement. On peut imaginer que ça pourrait être au large de Naples. Peut-être sommes-nous à Capri ou dans ces eaux-là. Peut-être sommes-nous à Lampedusa. Après tout, on voit bien des gens échouer à Lampedusa encore de nos jours. Prospero, sur son île, nous apparaît comme un vieux magicien grincheux. C'est un héros shakespearien. Il n'est pas très aimable. Shakespeare fait de la distanciation brechtienne bien avant l'heure. Sur son île, donc, Prospero utilise ses pouvoirs magiques pour asservir tous les habitants de l'île. Il y a en particulier un sauvage, on ne sait pas s'il est humain ou s'il est d'une autre espèce. Ce sauvage s'appelle Caliban. Caliban et non pas Taliban, Caliban, c'est vraiment un sauvage dont l'identité est très mystérieuse. Et Prospero va aussi asservir les esprits du lieu, dont le délicat Ariel, l'esprit des airs. La tempête du titre est celle qui va très opportunément faire naufrager le navire de l'usurpateur Alonso sur l'île magique de Prospero. Miranda elle-même est émerveillée de l'existence de ces humains qui débarquent tout à coup sur son île. Elle n'a jamais vu d'humains, elle trouve ça très très beau, en particulier le jeune Ferdinand, qui n'est nul autre que le fils du traître, Alonso. Elle nous dit « Brave new world, comme ce nouveau monde est magnifique ». Après de multiples complots et contre-complots qui seront déjoués par les sortilèges de l'habile Ariel, Prospero retrouve son duché, pardonne aux traîtres, libère les esprits et renonce à la magie. Et c'est ici que nous avons un tour de magie du dramaturge lui-même. À la fin de la pièce, la dernière pièce de Shakespeare, très important, le vieux magicien Prospero demande au public, qui est son véritable maître, la permission de prendre congé. C'est ce que fait William Shakespeare lui-même, qui après la tempête renonce à la magie du théâtre et rentre sur ses terres. Mais nous continuons notre voyage, nous allons plus au sud et gagnons maintenant la Sicile. Nous voici à Palerme, à la cour du roi Léonte, qui est le cadre d'un conte d'hiver, Il racconto d'inverno. Il s'agit ici d'un texte hautement poétique de la maturité de Shakespeare qui chante la Renaissance et le renouveau. Donc nous sommes chez le roi Léonte, roi de Sicile, et de son épouse Hermione. Au début de la pièce, la reine est enceinte. Léonte et Hermione supplient leur hôte, leur ami, leur visiteur, le roi de Bohême, Polixène, qui est avec eux depuis quelque temps, de rester encore quelques jours de plus. Polixène devrait rentrer en Bohême, vraiment, il faudrait qu'il rentre chez lui, mais il finit par se laisser fléchir par les supplications d'Hermione. C'est alors que Léonte, le roi, le mari, est pris soudainement d'une jalousie furieuse, aussi soudaine qu'injuste. Il emprisonne la reine, qui accouche en prison. Il donne l'ordre que l'enfant, une petite fille, soit abandonnée dans le désert. Polixène, quant à lui, réussit à s'enfuir et à rentrer en Bohême. Hermione meurt de chagrin en prison. Peu de temps après sa mort, elle est totalement innocentée par l'oracle d'Apollon, qui arrive malheureusement trop tard. Léonte, à ce moment-là, comprend son erreur. Il s'abîme dans le désespoir. 16 années passent. 16 années plus tard, nous nous retrouvons brièvement en Bohême, où la jeune Perdita, celle qui jadis a été sauvée de la mort grâce à un vieux berger sicilien, elle distribue des fleurs à tout le monde, à tous les gens qui l'entourent, et en particulier un très charmant jeune homme qui s'appelle Florizel et qui n'est autre que le fils du roi de Bohême, Polixène. Évidemment, le roi ne l'entend pas de cette oreille, il est furieux de voir son fils s'intéresser à une humble bergère, il bannit tout le monde, il se fâche, il le prend très mal, donc les deux jeunes amoureux s'enfuient par bateau et se retrouvent à aborder sur les rives de Sicile où ils sont accueillis par Léonte, toujours repentant, toujours abîmé dans le désespoir 16 ans plus tard. Le vieux berger est toujours vivant. Il identifie Perdita comme la fille du roi, la fille perdue du roi et d'Hermione, ce qui en fait, évidemment, non pas une bergère, mais une princesse qui est tout à fait digne d'épouser le prince de Bohême, dont de sauf, et là tout va bien, mais il ne manque plus que la mère. Hermione, qui est morte en prison il y a déjà 16 ans, évidemment elle est toujours morte, cependant sa statue, une statue extraordinaire, plus vrai que nature, vient d'être achevé à ce moment-là par le fameux maître italien Giulio Romano. Encore un peu de magie shakespearienne, et la fidèle suivante de la reine, Paulina, à force de sortilèges et de musique, ramène la statue à la vie, et la reine est parmi sa famille. Encore une fois, tout est bien qui finit bien. Restons en Sicile pour assister de nouveau à de nouvelles violences sexistes. Cette fois-ci, nous sommes à Messine, dans la propriété du seigneur Leonato. Le seigneur Leonato est le père de la jeune Héro et l'oncle d'une certaine Béatrice, une fille extrêmement vive et douée et drôle. Au début de la pièce, le prince Don Pedro d'Aragon rentre de guerre et il va passer dans la propriété du seigneur Leonato avec son armée, parmi laquelle des vaillants soldats, dont Bénédicte de Padoue et Claudio de Florence. Une triple intrigue va se nouer entre Bénédicte et Béatrice, entre Héro et Claudio, et entre Don Pedro et son frère Don John. Encore un bal masqué, digne de la Commedia dell'arte, va être un théâtre où la galanterie et l'intrigue vont fleurir, et après des joutes verbales du plus haut comique, Bénédicte et Béatrice finissent par s'avouer leur amour. Quant à Claudio, il a promis d'épouser Héro. Simplement, il est la victime de Don John, qui lui fait croire que Héro lui a été infidèle. Et au moment où tout le monde est réuni pour le mariage, Claudio dénonce l'infidélité supposée de sa fiancée Héro. Il l'accable devant toute la compagnie, c'est vraiment très brutal, si bien que Héro s'évanouit, on la croit morte. Finalement, grâce à l'intervention et aux facéties de deux détectives aussi loufoques que maladroits, le complot ourdi par Don John est démasqué, tout rentre dans l'ordre, chacun retrouve sa chacune, après beaucoup de bruit pour rien, molto rumore su nulla. Nous venons donc d'évoquer 14 pièces italiennes de Shakespeare qui nous ont fait voyager du nord au sud de la péninsule. On pourrait ajouter encore quelques chefs-d'œuvre dont le destin a détourné la géographie. Mesure pour mesure, par exemple, ne se passe pas à Vienne, comme le dit le texte, mais en réalité à Ferrare. Tout est italien dans la pièce, les noms des personnages, l'intrigue est inspirée d'une œuvre de Cinzio qui se passe effectivement à Ferrare. Le changement pour Vienne est sans doute apocryphe. Quant au somptueux songe d'une nuit d'été, il ne se passe pas à Athènes, comme le texte le laisse supposer, mais bien dans la petite Athènes, qui est un quartier de Sabbioneta, près de Mantoue. Les joyeuses commères de Windsor, quant à elles, ne doivent rien du tout à Windsor, mais beaucoup à une novella d'Il Pecorone. La pièce est une commedia erudita, fidèle à son modèle italien d'origine. Pour finir, évoquons rapidement les célèbres sonnets de Shakespeare. Le sonnet est introduit en Angleterre dans les années 1550 avec des références souvent explicites à leur modèle italien. En 1609, donc du vivant de Shakespeare, paraissent 154 sonnets d'une très grande beauté d'écriture qui sont composés sous une forme originale propre à Shakespeare. Ils mettent en scène plusieurs personnages, le poète, le beau jeune homme, le rival. Les sonnets 126 à 154 nous intéressent particulièrement ce soir. Ils célèbrent la passion érotique du poète pour une mystérieuse et terrible dame brune. La dame, nous disent les sonnets, très brune, donc elle est loin des canons de la beauté tels qu'on les conçoit chez la reine Élisabeth. Elle est franchement plutôt italienne qu'anglaise. Elle est aussi injuste, cruelle, méchante, infidèle. Malgré tout, le poète ne peut pas s'empêcher de l'aimer. Il s'en veut, mais il subit. On se croirait ici chez Proust, tant souffrir pour une femme qui n'était pas son genre. Qui est cette dame? Qui est donc ce poète? Nous n'en savons rien. Peut-être sont-ils des personnages inventés, comme les personnages des pièces. C'est la thèse du professeur Michael Edwards, qui a enseigné au Collège de France. Ou peut-être sont-ce des vraies personnes. 400 ans d'exégèse érudite ne sont pas venus à bout de cette question, mais nous allons néanmoins voir ce que nous pouvons en faire. Commençons par le poète. Qui était-il vraiment? Qui era davvero? Est-ce que nous avons vraiment affaire à un jeune homme issu de Stratford, spectaculairement doué pour le théâtre, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Un certain nombre de beaux esprits, depuis la vie de Shakespeare d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, ont émis des doutes sur la paternité des œuvres de Shakespeare. Ce qui inspire ces beaux esprits, ce qui inspire ces doutes, c'est un contraste immense entre la richesse de l'œuvre et la platitude de la biographie de Shakespeare. C'est une platitude toute relative, comme nous avons eu l'occasion d'en parler. Il semble cependant que, outre-Manche, les anglo-saxons n'arrivent pas à croire qu'un acteur, un comédien, un saltimbanque puisse être en même temps un auteur, un poète de génie. Évidemment, les Français ne souffrent pas de cette infirmité. La langue de Molière nous a bien montré à plusieurs reprises qu'on peut être un comédien et laisser à la postérité des œuvres immortelles. Cependant, outre-Manche, il y a beaucoup de beaux esprits qui ont fait une déclaration de doute raisonnable. Ils ne sont pas tous anglais, d'ailleurs. Citons parmi les hommes de lettres, dans ce cas, Mark Twain, Henry James, Charles Dickens, il y a aussi des hommes de théâtre, Charlie Chaplin, Sir John Gielgud, qui est un immense interprète shakespearien, et parmi ceux qui ne sont pas anglais, Sigmund Freud, lui-même, que venait-il faire dans cette galère? On ne sait pas, mais il a émis des doutes raisonnables. Et Georges et Louis Borges, ils n'ont pas l'excuse d'être anglais, cependant, ils émettent des doutes raisonnables. Alors, voyons donc ces doutes. Qui recherchons-nous? Qui peut être l'auteur de toutes ces pièces? Quel est le portrait robot de celui que nous cherchons? Il s'agit certainement d'un érudit de haute volée, grand connaisseur de l'Italie tout entière, de son architecture, ses arts, sa géographie, la topographie de ses villes en détail, jusqu'aux objets de la vie quotidienne. Il connaît la littérature italienne, il y a des emprunts à l'Aretin dans 16 de ses pièces. On peut imaginer qu'il lit l'italien dans le texte, puisqu'à l'époque, Dante n'est pas traduit, ni Il Pecorone, que nous avons vu, qui a servi de modèle au marchand de Venise, ni Cinzio, qui a inspiré Othello mesure pour mesure. Shakespeare, dans ses œuvres, fait des jeux de mots en italien, ce qui quand même suggère une connaissance de la langue. Remarquez, il en fait aussi en français. Et il cite abondamment Montaigne, comme nous le verrons plus tard. Sans parler de son érudition très encyclopédique. Shakespeare semble initié en plusieurs domaines. Il parle de musique, il parle d'escrime, il parle de dressage des oiseaux de proie, comme nous l'avons vu dans la Mégère. Il parle de droit, il y a 25 procès dans les pièces de Shakespeare, il utilise 200 termes légaux. Il parle de la guerre, il utilise 340 termes militaires, il parle des armes, il parle de la chasse, il parle de l'histoire du Danemark, il semble connaître le château d'Elseneur, il connaît bien le judaïsme et les Hébreux, comme nous l'avons vu dans Le Marchand de Venise. Or, ce savoir est extrêmement exceptionnel dans le Londres du XVIe siècle. Peu de gens à Londres pouvaient se vanter d'en savoir autant. Évidemment, il connaît la maroquinerie, mais pour un fils de Gantier, c'est la moindre des choses. Alors, je sais à quoi vous pensez, c'est un homme de la Renaissance. Hein, ici, à la Corfi, nous sommes très familiers des hommes de la Renaissance. On nous en a présenté beaucoup, De Vinci, Galilée, etc. Mais là, quand même, admettez qu'on explose le concept. Là, franchement, il est très exceptionnel. Alors, si ça n'était pas William de Stratford, si ceci dépasse les capacités que nous pouvons raisonnablement supposer à William, qui cela pourrait-il être ? Eh bien, il y a plus de 60 prétendants dont les mérites ont donné lieu à un genre littéraire particulier, un genre littéraire à part entière dans le monde anglo-saxon, donc la critique shakespearienne. Il y a des œuvres publiées régulièrement pour vanter les mérites de l'un ou l'autre de ces 60 prétendants. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails. Sachez qu'il y a parmi ces prétendants des lettrés, Ben Jonson pour commencer, son ami, son rival, Walter Raleigh qui était écrivain, poète, mais aussi courtisan et explorateur, Christopher Marlowe dont on a parlé et dont Shakespeare s'était évidemment inspiré. Il y a Sir Francis Bacon qui était philosophe, qui était homme de science, homme d'État. Il y a aussi des aristocrates, le comte de Rutland, le comte de Derby, et le préféré de l'ensemble des exégètes, le plus populaire des prétendants, Édouard de Vere, le comte d'Oxford. Il a parmi ses défenseurs Sigmund Freud, Orson Welles et Sir Laurence Olivier lui-même. Malheureusement, il y a un petit détail qui cloche, il meurt en 1604. Et comme nous l'avons vu, beaucoup des chefs-d'œuvre de Shakespeare sont postérieurs à 1604. Je sais bien que c'est un Anglais, mais tout de même, il est un peu difficile de voir comment il aurait pu composer La Tempête, par exemple, qui est inspirée d'un naufrage qui s'est passé bien après la mort du comte de Vere. Mais les ouvrages consacrés au comte d'Oxford sont extrêmement convaincants. Je vous laisse les lire. Donc devant cette pléthore de candidats, on ne sait plus où donner de la tête, nous allons demander tout de suite le secours d'un très grand esprit, Borges. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Shakespeare est, dirons-nous, le moins anglais des écrivains anglais. En général, les Anglais aiment le sous-entendu, ce qui leur permet d'en dire un peu moins que ce qu'ils pourraient. Par contraste, Shakespeare avait une tendance à l'hyperbole dans la métaphore. Aussi, ne serait-il pas étonnant de découvrir que Shakespeare était italien ou juif, par exemple. Voilà qui nous ouvre des horizons. Est-ce qu'il y a parmi les prétendants quelqu'un qui répondrait à ce portrait robot ? Mais si je vous en parle, c'est parce qu'il y en a. Et le principal prétendant, le voici. Il s'agit d'un certain Giovanni Florio. Qui est-il ? Bon, pour les dates, ça a l'air de convenir. 1553-1625, tout va bien. Qui est-il ? C'est le fils de Michelangelo Florio, un pasteur italien calviniste d'origine juive, qui s'exile en Angleterre pour fuir l'Inquisition. Alors, Michelangelo est un philosophe, un érudit, qui est employé par plusieurs aristocrates anglais. Giovanni, quant à lui, est linguiste, lexicographe, érudit, polyglotte. Il est le tuteur de maintes jeunes aristocrates anglais. Il est né à Londres, mais il a passé sa jeunesse sur le continent. Il rentre à Londres en 1570. Giovanni est très lié à Ben Jonson, donc familier du théâtre anglais. Il est aussi très proche de Giordano Bruno. On sait qu'il a été employé à Londres par l'ambassade de France. D'aucuns prétendent que c'était à titre d'espion. Giovanni Florio a aussi un autre atout très inattendu qu'il nous pourrions, étant donné le contexte, qualifier de coup de théâtre. En effet, la grand-mère maternelle de Giovanni est sicilienne et elle porte le patronyme très imagé de Crolla Lanza. Crolla Lanza, Crolla Lanza, autrement dit Shakespeare. Est-ce que les fameux sonnets de Shakespeare ne seraient pas par hasard les sonnets de Crolla Lanza? Eh bien, si ce monsieur est véritablement William Shakespeare, peut-être a-t-il laissé dans ses écrits, dans ses œuvres, des indices qui pourraient nous conforter dans cette hypothèse. Qu'est-ce qu'il a écrit au cours de sa vie? Quelles sont les œuvres littéraires qu'il nous a laissées? Il a beaucoup écrit, son œuvre est extrêmement abondante. Il a écrit surtout des œuvres didactiques. Les First Fruits sont parus en 1578. Il s'agit d'un manuel de langue italienne, suivi des Second Fruits en 1591, qui est un ouvrage qui contient non seulement une grammaire et des dialogues anglais-italiens, mais aussi une description détaillé de plusieurs villes italiennes. Dans A World of Words, nous avons un dictionnaire anglais-italien. Entre autres mérites, Florio est le très brillant traducteur en anglais des Essais de Montaigne en 1603. Il a également traduit en anglais les récits de voyage de Jacques Cartier en 1580, ce qui aurait convaincu la cour d'Angleterre de coloniser l'Amérique du Nord. Peut-être. Alors, évidemment, il y a des concordances entre ces ouvrages et l'œuvre de Shakespeare. Shakespeare va reprendre des centaines de néologismes qui sont proposés par Florio. Il va faire de très multiples emprunts aux Montaigne de Florio. Plusieurs œuvres, notamment La Tempête, citent abondamment le Montaigne traduit par Florio. Malgré tout, la critique a une piètre opinion des talents de poète de Florio, qui n'a rien écrit pour le théâtre et ne nous a pas laissé de poésie qui puisse nous faire croire à son talent particulier pour la poésie. Finalement, Florio meurt dans la misère en 1625, donc 9 ans après William Shakespeare. Pendant ces dernières années, il a supplié ses nobles protecteurs de lui verser une pension. C'est ici que sa candidature aux œuvres de Shakespeare perd une bonne partie de son crédit. Parce que nous avons vu tout à l'heure qu'un auteur dramatique de talent, à l'époque élisabéthaine, est riche. Il ne demande pas l'aumône. À l'époque où il n'y a ni télévision, ni Internet, ni Netflix, ni réseaux sociaux, un auteur dramatique de talent peut trouver à gagner sa vie. Donc, il y a du pour, il y a du contre, la candidature de Florio. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, un autre Italien qui pourrait nous inspirer? Eh bien, il y a plus précisément une Italienne, une prétendante, dans la personne de la poétesse Emilia Bassano. Qui est-elle? Emilia est la fille d'une famille juive du Veneto et peut-être originaire du Maroc. Il s'agit d'une famille de prestigieux musiciens de cour et de théâtre. De nombreux membres de la famille d'Emilia, des fils, ses fils, ses frères, ses cousins, son beau-père, travaillent avec la troupe de Shakespeare, où ils composent, ils jouent, ils chantent, ils dansent. Les contemporains nous disent que Emilia est une beauté brune, très brune. C'est une fille très délurée. Dès l'âge de 13 ans, elle devient la maîtresse du Lord Chamberlain. Elle a des mœurs très libres, et en dehors de tout ça, c'est une fille extrêmement douée, extrêmement érudite. D'aucuns ont suggéré qu'Emilia pourrait être nulle autre que la terrible Dark Lady, la dame brune des sonnets. D'autres, plus ambitieux encore, ont même suggéré qu'elle pourrait être Shakespeare lui-même ou elle-même. En effet, sa famille travaille étroitement avec le théâtre de Shakespeare depuis toujours. Dans son œuvre, nous l'avons vu, Shakespeare emploie 300 termes musicaux. Il fait 2000 références à des œuvres musicales, ce qui semble quand même indiquer une connaissance très approfondie du monde musical. Faisons donc un diagnostic de l'œuvre littéraire de la poétesse Emilia Bassano. Est-ce qu'elle a laissé des œuvres qui pourraient nous laisser penser que c'est une prétendante sérieuse? Elle est surtout connue pour son œuvre poétique, un seul long poème de 3000 vers, qui est un poème d'inspiration religieuse, Salve Deus Rex Judeorum, que la critique qualifie de texte expérimental, proto-féministe. Il s'agit d'une satire théologique où elle réécrit les évangiles. Évidemment, il y a beaucoup de similitudes troublantes avec l'œuvre de Shakespeare, beaucoup de mots, beaucoup de tournures, beaucoup d'expressions troublantes avec le contenu des œuvres de Shakespeare. Par ailleurs, beaucoup ont noté qu'un grand nombre de personnages shakespeariens s'appellent Emilia ou même Emilius. Malgré ces quelques rapprochements, les mérites d'Emilia paraissent relativement pâles à côté des mérites d'autres candidats. Nous allons donc ne rien trouver de décisif en sa faveur ou en sa défaveur. Aujourd'hui, qu'en pensent les spécialistes? La question reste ouverte. Régulièrement, comme je vous dis, c'est un genre littéraire à part entière. Il se publie des ouvrages érudits extrêmement brillants qui vantent les mérites avec beaucoup de conviction de tel ou tel prétendant. Les spécialistes se déclarent volontiers agnostiques. Il est clair que les textes qui nous sont restés ont beaucoup circulé, en particulier les pièces de théâtre ont été retouchées par de multiples mains, ce qui est confirmé par des analyses de textes réalisées avec les derniers logiciels informatiques. On sait par ailleurs que plusieurs pièces de Shakespeare, particulièrement au début de sa carrière et à la fin, ont été écrites à plusieurs mains en collaboration avec des collègues, comme c'était vrai pour le Thomas More du début de sa vie et pour les toutes dernières pièces qu'il a écrites en collaboration avec d'autres collègues. Est-ce que Shakespeare pourrait être un collectif à géométrie variable, au centre duquel notre William aurait manifesté son amour de l'Italie, sa passion de l'Italie? Nous ne percerons pas le mystère ce soir, nous ne percerons pas l'identité du poète, sans savoir qui se trouve véritablement sous la signature de William Shakespeare. J'espère vous avoir convaincu qu'il mérite le beau titre d'Italien et qu'il mérite par conséquence l'affection éternelle des membres de la Corfu. Je vous remercie.
Merci France, quelle virtuosité, quelle érudition, c'est très impressionnant. Alors, peut-être y a-t-il un aspect que certains voudraient voir un peu approfondi, une contestation d'ailleurs de ces analyses, ça va être compliqué, mais pourquoi pas.
France, je connaissais tes talents de nutritionniste, mais là je dois dire que je suis assez bluffée. Oui, la question est toute simple, en fait, pour quelle raison l'écrivain de toutes ces merveilles aurait voulu qu'on ne connaisse pas son nom? Enfin, pour quelle raison on ne connaît pas son nom?
Pour des raisons que j'ai un peu évoquées au début, c'est-à-dire que si vraiment c'est un aristocrate,
ah oui.
Hein, et il ne veut peut-être pas qu'on sache qu'il s'intéresse à la sédition romaine, qu'il s'intéresse aux meurtres politiques, c'était des sujets très glissants. Donc si c'est un aristocrate, ça se... voilà. Si c'est un autre auteur qui, pour une raison ou une autre, aurait voulu jouer sur plusieurs tableaux, pourquoi pas? Si c'était Madame Bassano, la poétesse, les femmes n'étaient pas très représentées quand même dans le théâtre, et elles n'étaient même pas autorisées sur scène. Donc, comme auteur dramatique, encore moins. Il peut y avoir de multiples raisons. Selon l'identité véritable de l'auteur, on peut imaginer qu'il aurait pu vouloir se dissimuler pour des raisons qui lui sont propres.
Merci.
D'autres interventions? Ce qui est aussi curieux, c'est la résonance avec les mœurs actuelles, je veux dire. Cette violence urbaine qui Dante a jouée. Il y a eu une excellente émission, une série d'émissions sur France Culture il y a peut-être un mois, sur les bandes de jeunes. Et ça commençait au Moyen-Âge, évidemment, ce problème. Et là, Vérone a rencontré aussi le même problème.
Très, très souvent, on a l'impression d'être dans les actualités d'hier soir. Vraiment, qu'il s'agisse de violences urbaines, de violences conjugales, de crimes politiques, de complots. Parce qu'il y a beaucoup de complots dans Shakespeare. On est vraiment dans le monde contemporain. Il était très visible. Si ça se trouve, on va découvrir que Shakespeare était un auteur du 21e siècle.
Bien, mais il nous reste de remercier. Et puis,
c'est moi qui vous remercie.
La porte de la Corfuite est toujours ouverte pour nous faire de pareilles prestations.
D'accord.
Prochaine.